Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir notre confrère et ami, Claude Boschurberg, qui nous parle de son nouvel essai, Samuel Milo Adonner et ses compagnons, Sentinelle de la mémoire au cœur de Paris, avec une préface de Serge Klarsfeld, qui vient de paraître aux éditions des Fils et filles des déportés juifs de France. Bonsoir Claude.
Bonsoir Sandrine.
Il n'est plus utile de vous présenter ce soir pour les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom. Vous êtes ici chez vous, à Radio Shalom et dans mon émission. On le sait, depuis plusieurs années, vous présentez l'émission Mémoire et Vigilance. Vous êtes par ailleurs responsable de la page Mémoire d'actualité juive, on y reviendra, et vous revêtez de nombreuses casquettes. Entre votre fonction de journaliste s'ajoute celle d'ostéopathe, de psychomaticien, d'enseignant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Non. C'est à peu près tout. Oui, je voudrais quand même préciser que c'est vrai que j'ai eu l'honneur de commencer cette émission Mémoire et Vigilance en 1981, c'est-à-dire à l'époque de l'ouverture des radios libres. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des décennies d'émissions qui ont été rétrocédées, je dirais, au mémorial de la Shoah. Je crois qu'ils ont recensé, il n'y a pas si longtemps, c'est ma fierté du reste, près de 850 émissions de tous les rescapés survivants des camps que vous avez connus aussi, Sandrine, et qui sont aujourd'hui sauvegardés, je dirais, leur voix est sauvegardée dans le cadre du mémorial.
Alors, vous me donnez l'occasion de lire un extrait que je voulais lire plus tard, et je vous cite tout de suite. Dans l'introduction, vous écrivez « Durant des décennies, j'ai fait état de cette action juive polymorphe dans mon émission « Mémoire et Vigilance », en recevant très régulièrement ces différents acteurs, en recueillant leurs témoignages, en rendant compte de leurs activités, de leurs manifestations du souvenir ou d'hommage, dans ma rubrique « Mémoire, actualité juive », on ne dira jamais assez combien ces ex-déportés ont fait avancer la cause de la mémoire.
Oui, c'est vrai que, en plus de ça, c'est une période triste, il faut le dire, triste, dans la mesure où on a tellement perdu de rescapés qui étaient en même temps des militants, comme vous l'avez souligné, et pas plus tard qu'aujourd'hui. Je vais me rendre à la levée du corps de quelqu'un qui nous est vraiment très cher, qui était donc le seul survivant du convoi 73, Henri Seidenverrière, le seul survivant d'un convoi de 878 hommes et qui aujourd'hui nous a quittés. On passe dans un nouveau cycle. Et c'est cette période que je redoutais, mais il faut aussi être, je dirais, relativement optimiste dans la mesure où, encore une fois, grâce à ce que vous faites, Sandrine, à ce que nous faisons aussi dans le cadre de Radio Shalom et Actualité Juive, les voix, les grandes voix de ces témoins sont sauvegardées. Et c'est peut-être l'essentiel pour que, en fait, on n'oublie pas ce qu'a été la Shoah, c'est-à-dire cette césure épouvantable dans l'histoire humaine. Et j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, quelle est la leçon à en tirer lorsque l'on voit à nouveau une recrudescence de l'antisémitisme ?
Alors on va en parler aussi. Dans cette présentation, évidemment, il faut dire que vous êtes aussi l'auteur de très nombreux ouvrages sur la mémoire, mais pas seulement, aussi en ostéopathie. Donc, votre actualité, c'est ce nouvel essai sur Samuel Milo Adonner et ses compagnons, Sentinelle de la mémoire au cœur de Paris, je rappelle le titre, qui vient de paraître aux éditions des Fils et filles des déportés juifs de France. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de cet essai ?
Alors, la genèse de cet essai, c'est une bonne question parce que je ne vais pas vous apprendre que du temps du vivant de ceux que nous côtoyons, qui sont dans notre proximité affective même, on ne se rend pas compte souvent de l'importance qu'ils revêtent, qu'ils ont. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Milo Adonner. Milo était un mensch qui, en fait, avait regroupé autour de lui ses compagnons de Blechhammer Auschwitz III, dans la proximité au départ du grand rabbin, Liché, rabbin des déportés de France, et qui, en fait, ont mené, ces hommes, une action absolument exemplaire, je dirais, au cœur de Paris. C'est-à-dire que, du temps de leur vivant, on ne se rendait pas trop compte de ce qui allait se produire dans les années de leur militantisme. Et il a fallu ce recul, c'est-à-dire au fond son départ, c'est-à-dire en mars 2020. Et là, je me suis rendu compte que c'était une action absolument incroyable, encore une fois, au cœur de Paris. Et ce, je dirais, en lien également avec le successeur du Ramalliché, en l'occurrence le grand rabbin Olivier Kaufmann. Et ça a créé donc un rassemblement d'hommes extrêmement investis, engagés pour lutter contre l'oubli. Et on pourra en parler parce que à partir de la centralité de la synagogue de la place des Vosges, eh bien, ces hommes ont essaimé au cœur de Paris une action absolument incroyable.
Alors, avant d'entrer dans le contenu du livre, je voudrais vous citer une nouvelle fois. J'ai l'impression que dans cette introduction, vous dites des choses, pourtant je vous ai lu, que vous ne disiez pas, peut-être en forme de regard jeté sur les temps que nous vivons et puis cette histoire inéluctable et la marche des générations qui s'éteignent. Vous écrivez, je vous cite... Certes, l'histoire n'existe que par les hommes qui la font, mais l'histoire n'existe également que si elle est narrée dans le respect absolu des faits. Sinon, l'histoire se perd dans le silence. Oui. Maintenant que les témoins s'en sont allés, il fallait que leur combat soit rappelé afin qu'ils puissent trouver une place empreinte de reconnaissance pour ce qu'ils accomplirent. Oui. Est-ce que c'est ça la ligne directrice du livre ?
Ah ben c'est exactement ça. Vous avez parfaitement saisi, je dirais, la quintessence du projet. Et c'est pas à vous, historienne, que je vais apprendre qu'une histoire qui n'est pas narrée est une histoire qui se perd. Donc, en réalité, l'objet de cet ouvrage, eh bien, il est nourri, et je le dis non pas pompeusement, mais il est nourri par une éthique de laisser trace, de laisser une trace de ces hommes admirables qui ont fait tellement au cœur de Paris et qui méritaient effectivement d'avoir une place. Une place, je dirais, dans le lien avec la société. Cette place, eh bien, c'est le livre qui permet, précisément, parce qu'un livre, ça reste, qui permet de faire en sorte que la mémoire perdure. Et donc, en fait, c'est vrai que la réflexion autour de l'histoire, ce n'est pas une réflexion abstraite. C'est-à-dire que l'histoire, elle est faite par les hommes. Et il faut que les hommes... en fait, qui font cette histoire, eh bien, portent la trace de leur action. C'est exactement ce qui s'est passé avec Milo et ses compagnons, parce que, en fait, avec le recul, on s'aperçoit que, en réalité, c'est non seulement la communauté humaine, juive et non juive, mais également les pouvoirs publics, parce qu'il faut savoir que cette action au cœur de Paris, elle s'est faite en plein, je dirais, en plein cœur de Paris, encore une fois, avec... une conversion entre guillemets des différents maires à la lutte contre l'oubli sans pour autant qu'il y ait de la part de Milo et de ses amis un engagement politique. Ça n'avait rien à voir. Donc c'est ça qui est absolument admirable.
Est-ce que vous pouvez nous brosser en quelques phrases la biographie de Milo Adonner ? Alors on l'a tous vu à toutes les manifestations, à tous les événements. Oui. Quel était son lien avec la Shoah ?
Ah ben c'est un lien, c'est un grand témoin de la Shoah. Il faut rappeler que en fait, il va être donc arrêté dans une rafle qui se fait donc le 23 septembre 1942. Il va être à ce moment-là emmené par les forces de police donc à la mairie du 4e, puis à Drancy. Il va se retrouver à Drancy avec donc ses parents. Avec, il faut savoir qu'il était le quatrième d'une fratrie de 7 enfants, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un immeuble qui se trouve rue des Deux-Ponts, donc en plein cœur de l'île Saint-Louis, où en fait 112 habitants vont être afflés, dont 40 enfants, et puis ils vont donc prendre le chemin d'Auschwitz. Et en fait, avant d'arriver à Auschwitz, c'est-à-dire à Kozel, c'est ce qui explique le fait que Milo et d'autres amis, d'autres compagnons ont pu survivre d'une certaine façon, c'est qu'à Kozel, ils ont été sélectionnés pour des camps de travail et que à son retour, donc Milo s'est retrouvé seul, sauf une sœur qui avait été épargnée. Il a perdu son frère qui a été fusillé lors des marches de la mort. Et donc après, il s'est engagé, comme je l'ai rappelé au début de cette émission, avec le rabbin Liché, qui était aussi un compagnon de déportation, et d'autres que vous avez connus aussi, je voudrais les citer dans le désordre, Adi Fuchs, Charles Baron, Raoul Chouesnik, et combien d'autres, Georges Ostier, enfin, il y a toute une liste. Et mon propos dans cet ouvrage, c'était vraiment de n'oublier absolument personne, aussi bien du côté de la place des Vosges que du côté des compagnons de Milo, parce que il faut savoir que Milo ne peut pas être séparé d'un collectif. Milo, c'est une voix collective, à telle enseigne que chaque année, en même temps, on passait de l'ombre à la lumière avec lui, mais toujours, toujours en collectif, c'est-à-dire le fait que chaque année, au mois de mai, eh bien, il emmenait ses compagnons et leur famille en Israël. Et je peux vous dire, pour avoir participé à de nombreux voyages avec lui et sa femme Suzy, à qui il faut rendre hommage, eh bien, c'était loin d'être mortifère, parce que c'était des croqueurs de vie. Milo, c'est un homme qui célèbre la vie en permanence. Il a fondé une famille, deux filles magnifiques, une descendance, et puis en même temps, je dirais, une fidélité absolue. C'est ça la caractéristique d'un Milo, une fidélité absolue, parce que, encore un autre exemple, lorsque je vois faire Milo et ses amis, qui chaque année, au moment du dernier dimanche d'avril, où se tient la journée nationale d'hommage aux déportés, eh bien, chaque année, on se retrouvait au pied de l'école des hospitalières Saint-Gervais, où plus de 260 élèves ont été arrêtés et déportés, et chaque année, Milo rappelait un à un le nom de ses camarades disparus. Et ça m'a donné l'idée de réaliser un film qui s'appelle La communale au cœur, qui est aujourd'hui, on peut dire, un film, un document historique, parce que j'ai fait revenir tous les survivants à l'intérieur de l'école, et parmi eux, il y avait, c'est ça qui est extraordinaire, il y avait la fidélité, mais en même temps, je dirais, cette espèce de résilience qui avait fait que parmi ces hommes-là, beaucoup avaient fait des réussites exemplaires dans la société. J'aurais cité Adi Steg, le professeur Adi Steg. Je voudrais citer Henri Bulafko. Je voudrais citer Alex Alon Brunner, Frida Wattenberg et d'autres. Et également, peut-être, Lucien Finel, bien sûr, qui a été le maire de l'arrondissement et qui, figurez-vous, avait accompagné son propre père au moment où il était raflé au commissariat du 4e et qui après était devenu maire de l'arrondissement. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier.
Vous les qualifiez, Milo Adonner et ses compagnons, de sentinelles de la mémoire. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
Sentinelles de la mémoire, ça veut dire qu'en réalité, Milo avait toujours à la bouche, parce que chaque année, il faut dire que, à l'initiative du rabbin Charles Liché, au tout départ, une célébration était effectuée en mémoire de l'ouverture du camp d'Auschwitz, donc le 27 janvier 1945, et qu'à chaque fois, Milo venait témoigner de son parcours. De même que je le faisais venir à la synagogue de la Victoire pour participer, je dirais, à cette cérémonie. Et il avait ce mot à la bouche, en s'adressant surtout aux jeunes générations, « Zahor ». Zahor, Shamor, Zahor. Zahor, c'est-à-dire qu'en fait, comme on le sait dans notre tradition, en réalité, c'est injonction à être toujours dans le qui-vive, à être toujours, je dirais, disponible pour faire en sorte de porter la responsabilité de faire en sorte que la mémoire des nôtres ne soit pas oubliée. C'est ça la sentinelle, c'est d'être toujours vigilant, c'est ça. Mémoire et vigilance, ça ne peut pas, je dirais, se dissocier.
Il y a un autre élément important dans votre essai, c'est Paris, la capitale parisienne, où les actions de ces militants se jouent. Et puis, il y a notamment la synagogue de la place des Vosges.
Oui, bien sûr.
Elle a toujours eu hein, cette tradition importante toujours pour la mémoire, et puis elle le reste encore.
Bien sûr, mais il faut savoir que cette synagogue au cœur du Marais, eh bien, dès les lendemains de la guerre, a recueilli toutes les familles des survivants, des rescapés. Et autour de Milo, c'est organisé, je dirais, en fait, une sorte de temple de la mémoire, parce que, sous l'inspiration de Milo, du rabbin Liché, mais également, à partir de 2001, il ne faut pas l'oublier, au moment où, malheureusement, le rabbin Liché nous quitte, c'est pris en relais par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Et en réalité, il y a une soirée de transmission qui se perpétue encore de nos jours. Et ce qui est extraordinaire, voulez-vous que je vous dise, Sandrine,
oui,
c'est qu'au fond, cette mémoire, elle est toujours vivante. Parce que la synagogue de la place des Vosges est imprégnée de l'esprit, est imprégnée, je dirais, de la lutte de Milo, à telle enseigne qu'on perpétue la tradition. Chaque année, nous reprenons son témoignage qui est dispensé par un jeune qui prend en quelque sorte la voix de Milo pour dispenser son témoignage. Et il faut voir, c'est une soirée longue où en fait les jeunes sont là en lien avec les aînés et aujourd'hui avec les orphelins de la Shoah, parce que la plupart des compagnons, malheureusement, nous ont quittés. Mais ça continue à vivre, quoi. Ça continue à vivre. Et il ne faut pas abdiquer, il faut que ça continue, malgré ce que nous subissons aujourd'hui, la souffrance que nous avons de voir que l'antisémitisme est je dirais, aussi virulent de nos jours, quoi.
On en reparlera. Oui. Il y a dans ce livre quelque chose de très intéressant, ce sont les deux albums photos.
Oui.
C'était important pour vous qu'il y ait une présence visuelle.
C'est pas moi.
Et pas seulement de Milo, hein, aussi oui. de ses compagnons, oui. et de vous, et de Serge Klarsfeld dans ce livre.
Justement, là c'est le volet important, c'est que, alors, je reviens au livre, à la genèse du livre. Quand j'ai reçu, j'ai presque envie de dire, mais vraiment avec beaucoup de pudeur, cette injonction morale de laisser une trace, j'ai évidemment fait un manuscrit que j'ai envoyé à Serge. C'est la première personne pour moi qui devait lire cet ouvrage. Et il a été conquis, il faut le dire. Et il a décidé, à ses frais, de le publier sous l'égide de l'Association des fils et filles avec une préface. Et c'est lui qui a dit « Je me charge du dossier photo ». C'est-à-dire que c'est lui qui a choisi une à une les photos et à telle enseigne qu'il voulait le faire dans la mesure où il faut quand même savoir que Milo est un des premiers acteurs qui se retrouve avec les Klarsfeld, donc du temps des procès de Cologne à l'encontre des criminels nazis, Hagen, Lischka, Eriksson, et qu'il est en tenue de déporté avec son costume rayé, si je puis dire, avec ses amis Henri Pudelot, avec Henri Wolf, avec Julien Aubard. C'est des hommes magnifiques qui sont là. Et je crois que c'est vrai que la mort de Milo a beaucoup affecté Serge Klarsfeld, et c'est pourquoi il a été heureux de conduire, je dirais, la publication de cet ouvrage en sachant que, allez, j'ai envie de le dire, qu'on le faisait à perte, qu'il le faisait à perte, quoi. Voilà.
Alors, vous l'avez dit, hein, Serge Klarsfeld était là aussi pour préfacer cet ouvrage. Il dit à plusieurs reprises que Milo Adonner a toujours été présent partout, tout le temps, dans l'action des fils et filles des déportés juifs de France. Est-ce que c'est aussi l'image que vous gardez de lui?
Mais bien sûr, c'est une image qu'on ne peut pas oublier. C'est Milo, il est toujours présent, je dirais, avec nous. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelqu'un, encore une fois, je ne voudrais pas me répéter, mais qui conduisait un collectif. Mais un collectif de lutte. C'est-à-dire que si on passe dans Paris, et en particulier, je dirais, au cœur du Petzl, l'île Saint-Louis, je dirais que son ombre est partout. Et il est partout également, sur tous les fronts de la mémoire, avec les fils et filles. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces hommes, comme le survivant du convoi de mon père, donc Henri Zadenverrière, que je considère comme un parent de cœur. Il y avait une osmose complète avec les fils et filles et les Klarsfeld, qui fait que nous étions, allez, disons-le, de la même famille, quoi. De la même famille, en lutte, dans la fidélité, et puis, je dirais, dans la célébration de la vie. Parce qu'en réalité, tout ce que je vous dis là, Sandrine, c'est pas triste, c'est pas mortifère. Parce qu'en réalité, ce combat-là, eh bien, voulez-vous que je vous dise, il n'y a pas longtemps, je le disais au mémorial de la Shoah, lors du forum aussi peut-être, c'est que dans la proximité de ces hommes-là, que ce soit Klarsfeld, que ce soit Milo Adonner, que ce soit Henri et tous les autres, eh bien, en fait, nous avons eu une belle vie de dignité, de lutte, et peut-être de se dire qu'on a peut-être servi un petit peu à quelque chose.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Claude Bosch-Hubert qui nous parle de sa nouvelle actualité, la parution du livre Samuel Milo-Adonner et ses compagnons, Sentinelle de la mémoire au cœur de Paris, qui vient de paraître aux éditions des fils et filles des déportés juifs de France. Claude, nous sommes entrés dans la période d'après, celle de la disparition inéluctable des derniers témoins, et vous écrivez, et je vais une nouvelle fois vous lire... Aujourd'hui, nous sommes entrés dans la période que je redoutais, celle qui nous fait basculer de la mémoire racontée par les témoins eux-mêmes à l'histoire. Une histoire donc sans témoins, pour la simple raison que la plupart nous ont quittés au fil des mois pour notre plus grande peine. Nous sommes entrés dans un autre cycle.
Oui.
Est-ce que ça vous inquiète ?
Ça m'inquiète. Je vais faire une réponse un petit peu ambiguë, c'est-à-dire que oui, il y a une tristesse. Je vais vous confier quelque chose. Il m'arrive d'être insomniaque. Bon, c'est comme ça. Et je revois tous ces visages. J'entends leur voix. Ça a laissé une empreinte. Et je me dis, quelle tristesse. Ils ne sont plus là, quoi. Et en même temps, il y a quelque chose qu'il faut dire. C'est qu'il y a eu de très, très gros efforts de fait, notamment du côté du mémorial de la Shoah et de combien de militants pour sauvegarder cette mémoire. Aujourd'hui, il y a un grand patrimoine, c'est-à-dire que il y a eu des films audiovisuels, il y a effectivement des émissions, il y a, je dirais, des océans de livres, et en particulier, je voudrais rendre hommage encore une fois à Serge Klarsfeld avec ses publications, parce que personne n'est oublié avec Serge. Personne n'est oublié. On avait fait aussi une émission, souvenez-vous, autour du mémorial de nos militants disparus.
Tout à fait.
Chaque nom est marqué dans le marbre, si je puis dire. Personne n'est oublié. Donc, d'une certaine manière, ça nous conforte de savoir qu'il y a une mémoire qui sera portée. Maintenant, c'est vrai que, c'est malheureusement la vie. Hein. La vie, elle se superpose, malheureusement, à la disparition. Ne pas abdiquer, savoir que j'avais aussi, souvenez-vous, on s'était vu aussi pour l'ouvrage que j'avais consacré à quelqu'un qui m'était cher, un Talmud Raham, le professeur Marcel Kulski.
Tout à fait.
Un grand monsieur qui m'avait beaucoup apporté et qui disait la mort n'existe pas. La mort n'existe pas parce que nous avons une descendance. Et j'ai presque envie de dire, de suivre... Je dirais sa réflexion, c'est qu'il restera quand même quelque chose tant que nos descendants sont capables de porter la mémoire. C'est pour ça que le judaïsme est magnifique. Magnifique pourquoi ? Parce qu'en réalité, on est très fidèle à la mémoire. C'est les juifs qui ont, en quelque sorte, inventé, je dirais, le Yortzeit, les anniversaires, le rappel des noms. Moi, je suis bouleversé, mais vraiment, quand je vois que pour le 60e, 65e, 75e, aujourd'hui le 80e anniversaire, les familles se réunissent au moment du départ des convois pour rappeler à haute voix le nom des disparus. C'est magnifique de faire ça. C'est-à-dire que tant que le nom est rappelé dans la sphère publique, il y a comme une sorte de résonance dans l'espace qui fait que ça continue à vivre. C'est magnifique, ça.
C'est magnifique, hein, vous l'avez dit, nous sommes le peuple des livres.
Nous sommes le peuple de l'interprétation.
Et de l'interprétation des livres, comme disait Armand Abécassis.
Ouais, oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire combien de livres vous avez écrits sur les témoins, sur la mémoire, sur les archives ?
En tout, je dois avoir fait 34 livres à peu près, mais ce qui se partage, comme vous l'avez rappelé, entre des essais autour de ce qui est imprenable, c'est-à-dire mon espace professionnel, que je qualifie d'espace hybride, parce qu'il est entre l'écoute du langage du patient et de l'investigation de son corps. Et je vous fais une confidence, alors je ne devrais peut-être pas la dire, mais plus tard se produira un ouvrage que je fais avec Marc-Alain Wacknin, qui me fait l'honneur d'avoir fait un commentaire autour de mon œuvre, entre guillemets, concernant donc mon approche des patients et en lien avec la mémoire. Donc, je n'en dis pas plus, mais pour moi, ça va être un grand honneur parce que, effectivement, là encore, je dirais, c'est parce qu'il y a des écrits qu'on peut faire trace et qu'on peut faire surtout rebondir la, la pensée. C'est-à-dire qu'un livre, comme vous venez de le dire, bah, ça sert tout simplement à faire rebondir la pensée, à devenir créatif à notre tour. Et bah, j'ai cette névrose de l'écriture, mais on est un peu cousins
oui,
tous les deux, parce
c'est
que
contagieux.
Je vous connais et que vous n'êtes pas loin aussi d'une œuvre importante.
Il y a cette expression qui est parfois décriée, de témoin des témoins, et maintenant témoin des témoins de la parole des témoins. Est-ce que vous adhérez à ça?
Non, j'adhère parce que c'est du langage facile, mais il faut être extrêmement prudent. Ce que les témoins, les acteurs témoins, entre guillemets, ont subi et vécu, je dirais que c'est là où c'est très complexe. C'est qu'en réalité, on est obligé de parler de singularité. Parce que l'expérience des camps, entre guillemets, d'un camp à l'autre, ne renvoyait pas à la même expérience. C'est-à-dire que c'est, on peut dire, une expérience indicible. Et que la transmission, c'est pas parce qu'on, je dirais qu'on se produit devant une salle et qu'on transmet que c'est reçu comme ça. En réalité, pour que la transmission se fasse, il faut pas que ça intervienne comme une sorte de produit fini. Ça demande de la part de celui qui la reçoit un travail, mais un vrai travail de recréativité. Donc c'est un petit peu compliqué. Disons que dans le langage courant, on dit oui, on devient le témoin des témoins, mais il faut tellement de choses pour devenir témoin à son tour. Est-ce qu'on est vraiment témoin? Oui, on porte une parole de fidélité. Maintenant, je dirais que la singularité dont je parle, elle ne peut pas être transmissible comme ça. Vous savez combien j'aime les écrits de Lévinas. Lévinas parle aussi de cette solitude qui est unique en chacun et qui, précisément, selon lui, quand il définit le temps et l'autre, l'autre signifie l'apparition du temps. Et dit-il, l'apparition du temps, c'est, avec la proximité de l'autre, un élargissement de l'existence. Ce qui veut dire que pour qu'une transmission se fasse, il faut qu'elle soit accompagnée aussi, allez, j'ai envie de dire, par une sorte de tuteur ou d'enseignant qui va faire qu'on va commenter cette transmission de manière à ce que celui qui la reçoit soit, encore une fois, créatif à son tour. C'est un peu compliqué. Mais je sais que vous me comprenez ce que je dis.
Tout à fait. Vous nous avez parlé de votre projet avec Marc-Alain Wachnin. Qu'est-ce que vous aimeriez encore, au-delà de ce livre, hein, écrire, réaliser, faire pour rendre hommage, d'un côté, évidemment, aux héros de l'ombre qui ont fait progresser la question de la transmission de la mémoire de la Shoah, et puis pour les générations, oui, faire en sorte qu'on n'oublie pas.
Oui, dans le feu du secret, je suis en train, effectivement, de travailler. J'ai besoin, comment vous dire, de m'appuyer, entre guillemets, sur des exemplarités, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnages comme ça qui nous ont nourris, qui nous nourrissent et qui nous inspirent. Et mon propos, c'est peut-être, allez, je le dis, mais vraiment avec sincérité, de tenter de m'effacer pour laisser la place à celui qui devient un porteur d'exemplarité, avec cette résonance que, en réalité, il y a des personnages comme ça qui mérite vraiment de laisser des traces, quoi. Donc je suis au travail, et puis voulez-vous que je vous dise, c'est vrai, je me sens un Talmid Raham, c'est-à-dire, attention, dans le sens, non pas de quelqu'un qui va apporter une leçon aux autres, mais dans le sens d'un élève qui est en étude, c'est-à-dire je me sens un éternel étudiant, et je suis sincère quand je dis ça, c'est-à-dire que j'ai besoin existentiellement de donner libre cours à mon admiration, et puis, je dirais, avec cette conversion dans l'écriture, quoi.
C'est la dernière question que je vous poserai. Vous l'avez abordée en introduction. Force est de constater que la leçon d'Auschwitz n'a pas été retenue.
Oui.
On tue encore aujourd'hui, au XXIe siècle, des Juifs. Qu'est-ce que cela vous inspire?
C'est une meurtrissure. C'est une meurtrissure. Il n'y a pas si longtemps, et là encore, j'espère qu'on se recevra, vous me recevrez à nouveau. Il y a un film que j'ai réalisé avec Philippe Chaumont, quand nous sommes allés en Israël avec les Klarsfeld et les orphelins de la Shoah. Et en réalité, ce que nous avons perçu là-bas, ça a été aussi l'occasion de montrer notre désarroi, notre blessure, notre douleur, de voir qu'à nouveau, depuis le 7 octobre, il y avait eu, je dirais, cette monstruosité, je ne la commenterai pas, mais vous vous rendez compte de la résonance que ça peut avoir pour des survivants de la Shoah que nous sommes, de voir qu'à nouveau, il y a cette déferlante, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu penser il y a encore quelques années. Effectivement, c'est quelque chose qui nous atteint profondément. Mais en même temps, je dirais qu'il ne faut pas baisser les bras, quoi. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut garder ce qu'on appelle une espérance. Hein. C'est ce qui nous caractérise comme juifs, c'est-à-dire le fait que nous devons aller dans le sens. Tu choisiras la vie, coûte que coûte, ne pas baisser les bras et continuer à faire que, en réalité, eh bien, on mette le paquet, si je puis dire, sur l'éducation avec cette espérance que, d'une certaine façon, eh bien, on puisse effectivement trouver de l'apaisement dans le sens de la fidélité aux victimes et que ce soit porteur de leçons, je dirais, pour les citoyens de tous bords, dans la mesure où, comme vous le savez, la mémoire, eh bien, elle a pour effet aussi, et comme espérance, eh bien, de forger des consciences citoyennes pour la santé démocratique. Est-ce qu'on va y arriver? C'est un point d'interrogation. En tous les cas, je sais tout le travail que vous faites aussi, Sandrine, je vous rends hommage, et je sais que nous avons la même flamme pour ne pas abdiquer et de continuer notre route. Jusqu'à notre dernier souffle. Voilà.
Amen. En tout cas, Claude, je voulais vous remercier d'avoir été présent une nouvelle fois dans cette émission pour parler
J'espère
de votre actualité. Non, il y a de tas de projets. Et je rappelle votre actualité, la parution par Claude Bauschurberg de Samuel Milo Adonner et ses compagnons, Sentinelle de la mémoire au cœur de Paris, avec une préface de Serge Klarsfeld qui vient de paraître aux éditions des Fils et filles des déportés juifs de France. Bonsoir et à bientôt.
Merci Sandrine.
Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le festival Jazz & Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.